Oui, il y a longtemps que vous habitez à Orléans.
Oh, je suis née, monsieur, à Orléans.
Vous êtes née à Orléans.
Je suis née à Orléans. Et j'ai toujours vécu, enfin, sauf à l'exode. Nous sommes partis, enfin, avec les vacances, bien entendu.
Est-ce que vous vous plaisez à Orléans?
Beaucoup. J'aime beaucoup. Beaucoup Orléans. Je suis amoureuse de la Loire.
Ah bon?
Peut-être pas dans notre ville, elle n'est pas peut-être très belle, mais tout aux environs, elle est très belle, la Loire. Aussi bien en amont qu'en aval.
Et pourquoi vous aimez Orléans? Enfin, c'est surtout de...
Je trouve que la ville est bien placée, avec déjà sur le bord de la Loire. Et puis, c'est assez harmonieux comme ville, c'est assez plat, on n'a pas monté et descendre comme dans certaines villes. La ville est assez bien achalandée, il y a quand même quelques œuvres d'art qui inquiètent, il y a des beaux jardins. Enfin, je trouve que la ville est sympathique. Et je crois que s'il fallait que je me demande à partir d'Orléans, c'est, vous voyez, ce n'est pas en France que j'ai choisi.
Est-ce que vous comptez rester à Orléans?
Je pense. Il faudrait que peut-être, alors que lorsque nous serons des vieux, que nous partions près de nos enfants. Ce qui est une chose qui est possible encore, mais nous n'avons pas envisagé. On partagerait plutôt notre temps avec la Côte d'Azur et puis Orléans. Et puis les enfants, les petits-enfants.
Est-ce que vous travaillez?
Non, pas du tout. J'ai élevé mes 4 enfants.
Oui.
Pendant la guerre, j'ai repris la place de mon mari.
Oui.
Mon mari est quincaillier et j'ai été pendant un an au magasin. Mais sans cela, j'ai passé ma vie auprès de mes enfants, puis auprès de mes petits-enfants.
De plus en plus aujourd'hui, des femmes mariées travaillent. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement?
Je pense que je les plains d'être obligées de travailler. Elles, au contraire, cherchent l'évasion et ont l'air d'être très heureuses. Mmh. Mais je pense que la place d'une femme est dans son foyer auprès de ses enfants. Et voyez-vous, justement, l'autre jour, nous avons eu une discussion avec une personne dont les enfants n'avaient pas réussi. Je lui ai dit qu'à la base de beaucoup de réussite chez les enfants, il y avait quand même la mère au foyer, la mère qui s'occupait de ses enfants et qui suivait les études et qui contrôlait les entrées et les sorties des enfants. Et qu'il y avait quand même, je crois, beaucoup de... Enfin, on les forçait tout au moins à travailler. Peut-être que ce n'était pas accepté de bon cœur, toujours. Enfin, il y avait quand même des résultats. Maintenant, la vie est très dure et on comprend que... Puis, il y a quand même un besoin d'évasion. Enfin, mes deux belles-filles ne travaillent pas, ni l'une ni l'autre.
Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre?
Eh bien, d'abord, le ménage, la cuisine, beaucoup de tricot, et puis je m'occupe d'œuvres, de petits orphelins. Alors, je vais travailler dans les ouvroirs, c'est les enfants qui sont abandonnés, qui sont malheureux. Et puis j'ai souvent mes petits-enfants à m'occuper aussi, qu'on me laisse lors des voyages.
De vos soirées, par exemple?
Oh, les soirées sont assez monotones depuis quelques années, parce que avant avec mes enfants, c'était quand même un peu plus agité. Mais alors là, on reste à regarder la télévision, et à part les amis qui viennent une fois par semaine. Mais nous partons tous les samedis soirs à la campagne, passons le dimanche et lundi.
Ah bon.
Et la chasse, pendant la saison de la chasse, tous les dimanches.
Ah oui.
Parce que la Sologne est proche, c'est ça l'avantage de l'Orléanais.
Oui. Et par exemple, dimanche dernier, qu'est-ce que vous avez fait?
Dimanche dernier, c'était grande fête. Samedi soir, nous fêtions les 60 ans de mon mari. J'avais eu le bonheur d'avoir mes 4 enfants.
Ah oui.
Alors là, ça a été la grande festive.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances d'été?
Nous avions l'intention de partir, de retourner à Corfou, mais je crois que nous allons descendre sur Athènes et Rhodes. Parce que Corfou ne me répond pas, ça fait deux hôtels qui annoncent plein. Un troisième qui m'a dit que c'était très très tangent. Alors je pense que nous allons descendre à Tainirol, changer. Le Corfou, on avait trouvé ça délicieux, et surtout encore dans un état un peu primitif, justement, ce que l'on trouve très peu maintenant. Est-ce que Rod nous plaira la même chose? Enfin, il y a de belles œuvres d'art encore, je reste. Enfin, j'ai un fils qui est très très curieux de tout ce qui se passe un petit peu partout. Et là, nous descendrons, au lieu de descendre en voiture, comme ça nous arrivait, de prendre après soit le bateau ou l'avion, nous partirons directement de Paris en avion. Parce que c'est quand même une grosse fatigue.
Si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, qu'est-ce que vous feriez?
Oh, c'est surtout la lecture. Là, surtout, j'emploie. Alors, je tricote et je lis, et alors, c'est ça, justement. Je ne perds pas mon temps parce que je peux faire beaucoup de choses, soit pour les petits orphelins, soit pour les petits enfants, et en même temps, je dévore des livres. Et je peux lire et tricoter. C'est très agréable. Et écouter des disques en même temps, les trois choses.
Ah bon, oui. À votre avis, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école?
À la base, déjà, beaucoup de, bien sûr, le français, bien sûr, puisque c'est ça surtout la base de tout, qui handicape souvent beaucoup d'enfants au départ, les mathématiques aussi, et puis dans les écoles, ce qu'on devrait leur apprendre aussi, c'est surtout beaucoup de politesse, de correction vis-à-vis de leur prochain, parce que c'est ça qui manque un petit peu, je crois. Et dans n'importe quelle, aussi bien pension qu'ils ont beau se gendarmer, mais je crois que c'est ça qui est le plus dur. À des jeunes enfants qui sont encore comme des petits animaux sauvages, alors lorsqu'il faut les dompter, c'est assez dur, je crois.
Et si on demandait surtout, enfin, que faut-il leur apprendre?
Il y a déjà, je crois, à respecter leur prochain, je crois, ça surtout.
Qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école?
Eh bien, mes fils ont fait tous les trois du latin, ma fille n'en a pas fait. Mais mes fils, et je pense que c'est une bonne méthode, et au point de vue travail, c'est les fixe énormément. Ils sont obligés de s'appliquer, de travailler, ça leur apprend l'amour du travail. Peut-être pas tout à fait accepté au début, mais je crois que... Et puis alors c'est une base quand même justement pour ce français et pour tout le reste même. Ils ont fait latin grec, ils ont fait C, ils ont tous fait A prime. Enfin, ils avaient donc tout complet, aussi bien maths que...
Dans quelle matière aimeriez-vous que vos enfants soient forts?
Eh bien, mon Dieu, j'en ai deux aînés qui aimaient surtout les maths parce que leur métier... Il y en a un qui est officier et l'autre, justement, il continue dans l'école supérieure du génie et voudrait passer ingénieur. Il va avoir son titre d'ingénieur en sortant de cette école à Versailles. Et puis l'autre est pilote de ligne et a passé là, justement, son stage de commandant de bord. Enfin, il est très jeune, il a 32 ans, alors c'est encore un gamin. Et l'autre, qui avait fait les maths, la même chose, a abandonné pour faire un normal sup en lettres. Parce que lui, il voudrait faire après l'ENA et justement plutôt économie, enfin, diplomatie, si c'était possible.
Mais dans quelle matière aimeriez-vous qu'il soit fort, vos préférences personnelles?
C'est discutable, je vois quand même, on doit avoir grand plaisir à être très fort en littérature, en français. Je crois qu'au point de vue maths et sciences, actuellement, il y a de gros débouchés. Peut-être plus qu'en lettres, où il y a, je crois, eu beaucoup plus de révolte justement chez les étudiants de lettres qui se trouvent un peu lésés actuellement.
Et d'après vous, est-ce qu'il est bon qu'un enfant soit fort à l'école?
Fort, non, pas le génie là, foudroyant, mais tout au moins un bon équilibre entre toutes les matières. Je vous en prie, vous avez très chaud.
Oui.
Il fait très chaud ici. J'ai pas pensé de vous dire de le faire.
Oui.
Parce que, vous savez, les génies souvent trébuchent où ils ne sont. Dans la vie, ils n'ont pas un débouché tellement pratique. Mais je crois qu'il faut le tout. Il y a un équilibre entre toutes les matières qui est nécessaire. S'il y a quand même une matière qui flanche, je ne sais pas si vraiment il y a un résultat après. Parce que pour rattraper. Et je crois que justement celui qui fait du latin et qui n'est pas très fort en maths arrive par la méthode à, je crois, celui très bon. Enfin, à notre avis, et à discuter avec des professeurs, et de plus en plus, justement, je pense que le latin est presque devient aboli, enfin, dans toutes les autres. C'est dommage. C'est-à-dire qu'il faut niveler par la base, et comme le niveau intellectuel baisse de plus en plus, fatalement, on ne peut pas demander à la masse de.
Et trouvez-vous, qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Il y a d'abord au départ quand même des dons naturels. On ne peut pas. Vous savez, un enfant, lorsqu'il est complètement bouché, il n'y a rien à espérer de lui. Il y a aussi peut-être le courage qu'il faut développer chez l'enfant, parce que souvent le jeu l'emporte sur le courage, et puis peut-être l'exemple aussi du travail autour de lui, je crois qu'il est déjà un bon exemple pour lui. Fait rire mon mari aussi.
Et jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études après?
Écoutez, moi je trouve que 14 ans pour celui qui n'est pas bon à quelque chose, c'est suffisant. 14 ans, c'était largement assez. Après, il apprenait un métier. On peut les laisser jusqu'à 18-20 ans. Il y en a, il n'y a rien à faire. C'est comme un estomac qui ne peut pas absorber. Le cerveau est pareil. Lorsqu'il ne peut pas, il est saturé. Mais on pourra leur montrer, leur apprendre n'importe quoi. Rien ne restera, rien ne sera imprimé dans leur cerveau. Alors je trouvais que 14 ans, c'était honnête. Et puis après, ils apprenaient un métier. Je trouvais que c'était parfait. Alors que là, maintenant, bien sûr, je veux retarder surtout les mettre en concurrence avec dans la vie. Et il y a tellement de chômage que ça retarde un petit peu le moment, c'est ça surtout.
Là, vous m'avez dit pour certains enfants, donc jusqu'à 14 ans.
Oui.
Pour les autres, enfin, jusqu'où estimez-vous que.
Lorsque l'enfant est capable d'aller jusqu'au bachot, après. Mais alors, ce qui est lamentable, et enfin. De plus en plus, on voit les enfants qui encombrent les classes. Parce que je vois du temps de mon fils aîné, il y a 17 ans de différence avec mon dernier. Eh bien, vous voyez, ils étaient au lycée, ils ont été d'abord dans des pensions à Orléans, puis après, ils ont tous fini au lycée à Orléans. Eh bien, au lycée, ils étaient, je crois, une quarantaine en maths. Mais c'était vraiment des enfants qui étaient tous à peu près de la même force et qui étaient capables d'arriver. Les parents se rendaient compte. Mais maintenant, tous les parents, ou alors est-ce que l'on veut justement se débarrasser des enfants en disant on ne sait pas quoi en faire, et ils vont rester en classe. Mon fils me disait, mais il y a un tas de cancres qu'on traîne derrière nous qui ne seront absolument jamais valables et jamais bons à rien. C'est quelque chose d'inouï maintenant. Et puis même après, là, il disait, là, je vais en Sorbonne, mais oui, les gens qui sont là, qui ne sont pas valables du tout. Je crois qu'il y aurait vraiment un tri à faire, mais on n'arrive pas à faire une sélection parce que c'est malheureusement ce ne sont pas les maîtres qui sont eux ils font leur marque justement les notes et toute leur appréciation, mais c'est les parents qui croient toujours que leurs enfants sont capables et c'est que les maîtres qui les envoient juger. C'est terrible. Moi j'ai une fille qui n'a fait que les beaux-arts et qui est partie à Vevey, qui a fait l'école des beaux-arts de Vevey. Bon, ben, au point de vue études, elle a fait jusqu'à la troisième, elle a redoublé sa troisième, puis après, bon, ben, c'est pas la peine d'assister, parce qu'on voit qu'il n'y a rien à faire, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir à déboucher dans la vie. Mais d'en s'accrocher misérablement comme ça, c'est horrible, c'est ça qui a fait le mal partout, dans toutes les classes, dans les universités. Partout, ce sont ces malheureux et ces malheureuses qui sont là. Et la faute à qui? Aux parents. Moi, j'estime que ce ne sont pas les enfants, ce sont les parents qui sont responsables de ça. Qui veulent absolument que leurs enfants fassent des études, mais ces pauvres malheureux sont incapables ou ça ne leur plaît pas. C'est ça qui est terrible.
Et d'après vous, enfin, l'âge auquel les enfants doivent finir leurs études, enfin, selon évidemment leurs possibilités. Est-ce que, d'après vous, il doit être le même pour les garçons et les filles?
Oh oui, moi j'estime qu'un garçon et une fille, ça va, mon fils l'an dernier, là, qui était en Cagne, eh bien les garçons et les filles qui préparent aussi bien Sèvres que enfin, la rue d'Ulle ou autre, eh bien, étaient à peu près à 6-8 mois de différence, mais vous savez, on sent que les enfants qui ont vraiment envie de travailler ou autre, il n'y a pas beaucoup, à part une exception, un enfant qui a été malade et qui s'est trouvé retardé d'une année, mais en général, vous savez, les bons sujets arrivent très tôt. C'est très rare celui qui reste, et qui arrive surtout lorsqu'il est... Il y en a, ça arrive quelquefois, parce qu'il y a quand même, je pense qu'il y en a qui, vers 15-16 ans, une croissance difficile, qui pensent davantage un petit peu à courir et pour moi aux études, et puis après que d'un seul coup ils se rendent compte quand même qu'il faut se faire une situation, et qui ont quand même l'intelligence pour réussir. C'est le cas de mon second qui est parti en Algérie à 19 ans et qui avait simplement que 500 heures de vol qu'il avait fait dans des cours privés et tout. Et puis alors là-bas pendant 2 ans, il a été en Algérie, il a fait beaucoup. Et puis alors il a suivi des cours par correspondance et lorsqu'il s'est présenté à Air France, bon, il était capable. Il a réagi assez tard celui-là.
Vous estimez qu'à la capacité égale, enfin, il faudrait que les seniors fassent autant d'études.
Oh oui, exactement. Moi, j'estime qu'il y a autant d'intelligence et aussi jeune et la même chose, le garçon, la fille. En fait. Et il y a même, je crois, des grandes intelligences chez les filles. Certainement. Des filles qui sont très douées, très bûcheuses surtout. Enfin, plus que le garçon, peut-être.
Pour en revenir à la ville d'Orléans, d'après vous, est-ce qu'on fait assez pour les habitants d'Orléans?
J'estime qu'il y a un gros effort et nous avons une municipalité qui depuis 1944, depuis la libération, a été vraiment très très au-dessus de... très bien dirigée la ville et a mené beaucoup d'aménagements, beaucoup de modifications qui est pour justement le bien-être de... des Orléanais, si, si, il y a certainement une très bonne gestion de la ville. Vraiment, je pense qu'on a été assez gâtés là dans notre ville. Il y a toujours, bien sûr, mais il y a aussi des fonds, des fois, c'est pas le fond qui manque le moins, mais c'est là qui manque le plus. Enfin, il y a eu beaucoup d'aménagements, beaucoup de fleurs d'importer partout. Enfin, bien sûr, actuellement, où ils sont un peu pris, c'est par les parkings qui manquent, et alors il y a de gros problèmes. Je crois justement ils doivent faire de gros travaux là, du côté des halles, et liquider une partie des halles pour faire parking. Alors là, ça va donner en plein centre, ça va un petit peu décongestionner.
Tout à l'heure, on disait est-ce qu'on a fait assez pour les habitants d'Orléans? On, pour vous, c'est qui
Oh ben, c'est la municipalité, là. C'est la municipalité qui a fait là, beaucoup, beaucoup pour la ville d'Orléans. Et toutes les municipalités qui se sont succédées, que ce soit de droite ou de gauche, il n'y a pas. D'ailleurs, on ne fait pas de politique à Orléans, vraiment. Vous savez, tout est fait pour le bien de la ville, mais on n'est pas très politique à Ripoll. Il y a des villes qui sont beaucoup plus excitées là. Tandis que là, ce qui est très bien d'ailleurs, on voit que le bien de, pour aussi bien pour j'estime que même les malheureux, tout ça, il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour ces gens-là. Des œuvres de créer, de façon. Tout n'est pas dans le meilleur du monde, ça n'existe pas le paradis terrestre, hein, ça serait trop beau. Enfin, on a été. Je trouve qu'on a eu assez de chance d'avoir des hommes de valeur et puis surtout une bonne entente au milieu du conseil municipal.
Justement, est-ce qu'il y a des personnes qui comptent à Orléans, enfin, qui ont de l'influence?
Oh, bien sûr, Orléans, vous savez, bien sûr, il y a la préfecture déjà, mais la préfecture. C'est régional, ce n'est pas vraiment pour la ville, c'est surtout la municipalité, le maire et tous les conseillers municipaux. Et puis alors après, mais il y a quand même, sur Orléans, il y a quand même à compter avec maintenant le recteur, là, qui a quand même tous les jeunes, justement, se voient dire et qui, mon Dieu, c'est quand même, je crois, se défend assez bien. C'est un monsieur qui a une personnalité assez marquée et qui a, je crois, de très bonnes relations, si bien avec la préfecture qu'avec la mairie. Et je crois que même la municipalité, même avec l'évêché, enfin, tout se déroule très bien. Enfin, dans tous les milieux, justement, il n'y a pas de heurts. Qui est déjà beaucoup.
On a beaucoup parlé des événements de mai dernier. Moi, je n'étais pas en France à cette époque. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé?
Eh bien, on a été tous très surpris de l'ampleur pris les événements, parce que ça a été quand même comme une espèce de bombe, parce que ça a été tellement brutal au point de vue ampleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous-mêmes, même mon fils qui était en somme là, eux-mêmes étaient dépassés par les événements. Je crois qu'il y a une bande d'agitateurs qui ont été très écoutés quoi, à ce moment-là. Il y a eu sans doute les esprits un peu chauffés par les examens qui étaient proches et qui, pour certains, étaient sans doute un gros danger. Et puis, mon Dieu, il y a toujours, comme toujours, la question politique qui est venue et puis on a embrigadé les ouvriers qui ont marché avec eux. Alors là, ça a été tellement quelque chose d'un petit peu, vraiment une petite révolution. On a eu très peur pendant 48 heures, enfin pas à Orléans, parce qu'Orléans, ça a été très calme. Juste quelques heures, là, je crois, à la source, bon, enfin, ça a été... Tandis que sur Paris, les personnes qui habitaient Paris ont eu très peur. Et surtout, ça a grondé la secousse. On riait presque de voir les jeunes, enfin, faire des bêtises et du chahut. Et puis après, lorsqu'on a vu ce tournure que ça prenait, c'était dépassé vraiment. Même le gouvernement, je crois, était lui-même, ou tout au moins, il a fait celui qui avait été dépassé. Est-ce qu'il a laissé, justement, faire? Qui sait? On saura ça plus tard, dans 20 ans, on saura exactement le...
Et à votre avis, pourquoi c'est arrivé?
Pourquoi c'est arrivé? Parce que c'est toujours la même chose. Il y a une bande de pauvres types, moi j'estime ça, de pauvres types, qui arrivent à 24-25 ans, qui n'ont absolument rien encore en poche et qui se trouvent des écrits, des révoltés. Alors, bien sûr, se demandent qu'est-ce qu'ils font au monde là, et qui sont incapables de faire autre chose, et qui s'accrochent désespérément, et puis qu'ils se rendent compte qu'ils n'arriveront pas dans la vie. C'est ça, je crois. Alors surtout, il était question de beaucoup qui partent quand même faire leur service militaire, parce que beaucoup, leur sursis arrivait en fin de... Parce qu'on dit l'université est faite pour les riches, mais non, l'université n'est pas faite pour les riches. Les personnes justement qui veulent arriver sont très très aidées, au contraire, on donne beaucoup de bourses, on aide beaucoup pour des voyages, d'études et tout. Mais malheureusement, il n'arrive très peu, il arrive quoi, 2-3% de la masse ouvrière. Pourquoi? Parce que justement, je crois qu'au départ, il y a quand même dans les familles, par exemple, d'enseignants, beaucoup d'enfants continuent leurs études et sont quand même très, très à la hauteur, parce qu'autour d'eux, ils ont quand même un nid d'études, d'intelligence, qui sont très nourris intellectuellement. Alors que, bien sûr, dans les milieux ouvriers, les parents n'ont pas le temps de s'en occuper, beaucoup, ils rentrent alors que ça leur fait plaisir, et puis il n'y a que vraiment celui qui veut travailler, puis qui est une grosse grande intelligence. Et c'est là, je crois, le départ, justement. On aura beaucoup de mal à faire comprendre ça, parce qu'on croit qu'on fait une sélection, mais on ne fait pas une sélection. La sélection se fait d'elle-même au départ.
Et d'après vous, est-ce qu'il y a des différences entre les classes sociales à Orléans?
Il y a certainement des... Oui, parce que nous faisons partie commerçants, et on sent que... Il n'y a plus de haute bourgeoisie, ça n'existe plus. Il y a le milieu industriel, il y a le milieu commerçant, et puis il y a, bien sûr, après la classe des travailleurs, et puis il y a beaucoup aussi d'agriculteurs retirés sur Orléans, parce que la Beauce vient de moins en moins quand même, peut-être sur Chartres maintenant, ou à Lens-Sologne. Mais dire que C'est très fermé, non. Il y a quand même une... Vous savez, je pense pas.
Les différences sont pas très mal.
Non, 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 non. À part quelques familles qui restent encore, vous savez, on peut dire arriérées, non, je crois que... D'abord, il y a une chose qui est là, c'est qu'au départ, dans les familles, il n'y a presque plus, jamais plus de domestiques. Alors, les femmes sont obligées de faire dans leurs courses, de faire... Alors, il y a quand même déjà un rapprochement avec... Non, je pense que...
Alors, pour combien vous verriez les catégories, vous m'avez dit donc les commerçants.
Il y a les industriels.
Les industriels.
Parce que la haute bourgeoisie, vous savez, ça n'existe plus. Celui qui ne travaille plus, c'est, il est rayé à tout jamais. Il y a le commerçant, et puis il y a après, si vous voulez, l'employé de banque, l'employé de commerce, et puis après, il y a les personnes qui travaillent en usine. Mais Orléans n'est pas une ville d'usine, beaucoup. Il y a surtout beaucoup d'employés de commerce, beaucoup de fonctionnaires aussi. Beaucoup.
Et si on vous demandait, par exemple, s'il vous est possible de les reconnaître, de les reconnaître ces différentes catégories quand vous les rencontrez, qu'est-ce que vous diriez?
Si, d'abord, sur Orléans, nous connaissons quand même beaucoup de personnes, alors. Mais il y a quand même...
Bon, si vous voulez, vous prenez une catégorie.
Oui, je comprends très bien. Oui. Mais voyez-vous, automatiquement, nous, dans le commerce, le magasin, un fonctionnaire, nous le verrons tout de suite, c'est pas que nous le... Mais il n'a pas la même réaction, si vous voulez, dans un magasin qu'un ouvrier ou un employé de commerce.
Ah bon.
Il est plus l'employé de commerce ou le travailleur, enfin d'usine, est plus facile à servir que... Il est plus... Comment, il a peur qu'on le vole davantage, le fonctionnaire, et davantage sur ses gardes, je trouve. Mais si quand même il y a certaines... On sent la classe, par exemple, fonctionnaire, enseignant, l'industriel, la femme d'industriel, ça se sent tout de suite quand même.
Vous expliquez, ah,
oui,
décrire
ça se, oui, ça se sent, il y a quand même... Enfin, des fois, on se trouve... bien trompé, parce qu'il y a quand même l'ami fait pas le moine, mais enfin il y a quand même certaines...
Est-ce que vous pourriez les décrire un peu?
Vous savez, les décrire, c'est pas tellement décrire, mais c'est dans leur comportement, parce que ça surtout, il y a une femme d'industrielle sera certainement souvent beaucoup plus digne et beaucoup moins étalée que par exemple la petite femme d'un petit employé de commerce qui ira, essaiera de plastronner ou autre. Vous savez, il y a une vie intérieure qui est beaucoup plus grande, et puis l'autre, on se met un petit peu tout sur le dos, si on peut dire, sa petite voiture, alors on est là heureux de montrer sa clé, une voiture. Enfin, il y a des petits détails comme ça qui sont assez drôles. Chacun son bon et son mauvais côté.
Et les ouvriers, par exemple, à quoi vous le reconnaissez?
Ben, lorsqu'ils viennent, par exemple, nous au magasin, souvent ils sont quand même habillés d'une façon plus ordinaire quand même que, par exemple, un industriel ou un docteur qui viendra faire une commande. Il a quand même une mise moins soignée, moins recherchée. Et puis, il y a quand même un tout qui fait que, il y a les moins raffinés, quoi. Il n'y a pas à dire. Même en dimanche, il y a quelque chose qui fait que... Ce n'est pas que je critique et je... Non, du tout, c'est comme ça, c'est certainement. C'est comme moi, si je voulais singer une grande bourgeoise, exactement la même chose. Bon, ben, il manquerait certainement quelque chose. Je crois qu'il faut chacun rester à sa place, c'est ça surtout, hein, pas essayer de... Ce n'est pas défendu d'envier et d'essayer de monter, au contraire. Dans la vie, c'est ça, je crois, qui fait que... On arrive à s'en tirer, peut-être, pour certains, parce que lorsqu'il...
Est-ce qu'il y a chez vous un dictionnaire?
Ah, il y a des dictionnaires, oui. Il y a des dictionnaires latins, des dictionnaires français, des grecs, des anglais, même des allemands.
Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire, là vous m'avez dit, anglais-allemand, latin,
grec.
Grec. Est-ce que vous pouvez me parler des dictionnaires français? Qu'est-ce que vous avez comme dictionnaire français?
Oh, le Larousse.
Le Larousse, c'est...
Le dernier, là actuellement je n'en ai pas parce qu'ils sont tous partis à la canale,
oui.
Mais...
Un Larousse en un volume?
Oui, un Larousse, oh oui. Le tout bête, celui qu'on a en classe,
qui... Oui.
Mais qui dépanne quand même bien. Aussi bien pour l'orthographe que pour, quelquefois, l'explication d'un mot.
Et où est-ce que vous l'avez chez vous? Est-ce que vous le mettez?
Il est dans la chambre des garçons, dans leur bureau.
Est-ce que vous vous souvenez depuis quand vous l'avez?
Oh, celui-ci, il n'y a pas très longtemps. Mon fils l'a acheté, je crois bien, il y a peut-être bien l'an dernier. C'est parce que je crois qu'à force, les uns et les autres, à force, avaient arraché les pages.
Et après, il y en avait un, et puis c'était à vos enfants aussi?
Oui, oui, oui.
Il a été acheté par votre fils?
Par mon fils, oui.
Est-ce que vous avez une encyclopédie?
Non, je n'ai pas d'encyclopédie. J'ai bien des encyclopédies, mais d'enfants.
Qui se sert le plus souvent du dictionnaire?
Vous savez, c'est pas souvent que nous nous en servons, mais lorsque je faisais travailler les enfants, oui, je m'en servais, mais là, quelquefois ça m'arrive lorsque j'écris un mot qui m'échappe au point de vue orthographe, alors je vais voir, pardon, excusez-moi, mais sans ça, non, c'est pas une chose, ou alors un terme qui a été employé, alors que je comprends pas très bien, je vais voir.
Vous en servez le plus souvent, c'est pour des questions d'orthographe?
Oui, plutôt. Oui. Et explication quand même, le sens d'un mot.
Davantage le sens ou...
Plutôt l'orthographe. Plutôt l'orthographe. Parce que quelquefois ça m'échappe. Est-ce... Dieu, il faut deux P ou deux L.
Est-ce que... Après, si on vous demandait sur quelle fréquence en fait, vous le regardez, je ne sais pas, une ou deux fois dans la semaine, ou une ou deux fois dans le mois?
Oh là là, plutôt une ou deux fois par mois peut-être, mais...
Une ou deux fois par mois.
Oh oui.
Par exemple, la dernière fois, c'était quoi?
Ça, je ne me rappelle pas, vous savez, je vous dirais une bêtise si je vous disais quelque chose.
À peu près.
Peut-être 15 jours, c'est possible, oui, sauf que j'ai dit regarder l'autre jour un mot. M'échappait. Pas comme mon dernier qui couchait avec, lorsqu'on lui défendait d'avoir des livres, alors il prenait l'heure à la rousse et couchait avec la rousse.
Et pourquoi vous n'avez pas d'encyclopédie?
Je sais pas, l'idée mais je m'est venue d'en acheter. Je sais pas pourquoi.
Est-ce que vous possédez des dictionnaires d'autres genres, des types par exemple, dictionnaires ménagers, dictionnaires gastronomiques?
Ah oui, j'ai des livres de recettes pour au point de vue, au point de vue gastronomie, ça j'en ai pas mal.
Ce sont des Larousse?
Oh, il y en a de toutes sortes, j'en ai au moins 4 ou 5, sont venus soit par des cadeaux, soit par ma belle-mère.
Pour quel mot vous avez regardé le dictionnaire la dernière fois
ou... Non, je ne me rappelle pas du tout.
Est-ce que vous possédez un livre sur, par exemple, l'un de ces sujets, l'art de parler, l'art d'écrire, l'art d'écrire des lettres?
Non, pas du tout.
Le bon usage?
Non, pas du tout.
Une difficulté dans le français ou bien un guide de politesse et savoir-faire?
Non.
Non.
J'avais ma petite belle-fille qui en avait un justement quelquefois lorsque j'avais des ennuis parce que ses parents étaient libraires. Alors c'est pour ça. Alors elle avait pas mal de ces petites choses-là et alors je lui demandais quelquefois parce qu'il y avait une fin de lettre à terminer.
Et pourquoi vous n'avez pas de livre de ce genre?
Parce que, je sais pas, j'en ai peut-être besoin, mais l'idée ne m'est jamais venue d'en acheter.
Est-ce que le journal que vous lisez habituellement contient une rubrique sur le langage ?
Sur le mariage ?
Sur le langage.
Ah, sur le langage ! Pardon. Non, c'est la République du Centre et je vois pas de... Il y a quelquefois, non, une fois par semaine sur la littérature, sur les livres de nouveau, mais non, pas du tout.
Est-ce que vous faites de votre tête ?
Oh, pas souvent, non. Non. Ça m'agace.
Enfin, vous en faites de temps en temps ou...
Oui, oh, mais vous savez, quelque chose de très facile, le jeudi, là, pour les enfants, ça me suffit.
Oui, une fois par semaine, quand
même. Oh, oui.
Dans un journal d'enfants ou...
Non, non, c'est sur le, toujours le journal local. Et alors, tous les jeudis, il y a une grille là pour enfants. Alors, alors, c'est suffisant pour mon intelligence.
Alors, vous le faites régulièrement tous les jeudis?
Oui, oui.
Bon, je vous avais demandé, est-ce que vous pensiez que c'était utile pour les enfants d'apprendre du latin à l'école? Et vous m'avez dit oui.
Oui, je crois. J'ai mon petit-fils qui est entré là déjà. Enfin, il a 12 ans, bien sûr, il est en 5e, mais ses parents tiennent absolument.
Vous m'avez dit comme raison. La raison que vous pensez la plus importante pour laquelle il serait bon de l'enfant du latin, c'est je m'en rappelle justement.
Eh bien, je crois que c'est une méthode de travail qui retient les enfants là pendant plusieurs heures et qui leur apprend justement la patience dans le travail et puis un petit peu la recherche, un travail personnel.
Qu'est-ce que vous pensez du franglais?
Du
franglais. Le fait d'employer par exemple des mots anglais dans la conversation, etc.
Je suis un peu hostile. Et alors justement, j'ai jamais appris l'anglais. Alors mes fils et enfin ma fille aussi se moquent de moi parce que je pense qu'il faut que je prononce un mot anglais toujours avec un, même pas un accent. C'est déplorable parce que.
Pourquoi vous êtes hostile?
Bon, j'estime que chaque pays doit garder ce. Sa langue, son vocabulaire, sans l'abîmer, sans le toucher. On peut faire entrer, mais alors carrément un nom anglais, mais sans déformer la langue française pour ça.
Est-ce que d'après vous, il y a des différences dans la façon de parler le français entre des gens qui appartiennent à des milieux sociaux différents?
De moins en moins.
Mais est-ce qu'il y en a ou...
Je crois qu'il y a certaines petites gens qui ont plaisir un petit peu à... un peu à déformer les mots. Mais de moins en moins, j'estime que... en classe, les enfants quand même sont formés la même chose, que ce soit dans les écoles libres ou dans les écoles publiques. Et le français donc est le même qui est, en, qui est enseigné.
Et d'après vous, si on vous demandait de choisir, d'après vous, est-ce que ces différences sont très importantes, importantes ou peu importantes?
À la campagne, si certainement, il y a une grosse déformation là, ils ont, surtout chez les personnes qui sont de notre âge, là, il y a encore à parler, alors là, qui est très très... Vous voyez, même en cela, il y a des fois, il faut presque... C'est un jargon, vous savez, il faut arriver à les comprendre, ils ont des mots à eux que... On a du mal à traduire.
Oui, autrement en général, en fait, dans la différence.
Non, par exemple, à Orléans même, je ne pense pas, il n'y a pas de différence.
Pas
très
de différence.
Peu, bien sûr. On ne peut pas comparer le vocabulaire du lettré d'un professeur avec le vocabulaire peut-être même d'un employé du magasin. Mais enfin, quand même, j'estime que maintenant, parle correctement et on n'emploie plus de justement de ce jargon qu'on trouve encore en, à la campagne.
Selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux, de plus en plus mal ou sans changement?
Je crois de mieux en mieux. Il y a eu quand même un gros progrès, très gros progrès.
Et de quoi cela vient-il?
Certainement quand même la base à l'école où on leur a pensé peut-être justement un petit peu appliqué à leur faire apprendre à bien parler français. C'est là la base de tout.
Et parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français?
Eh bien, c'est une dame amie, c'est la femme du directeur de chez Sandoz, là, à Orléans, je ne sais pas si vous connaissez, qui certainement est une femme qui, au point de vue vocabulaire, je crois très judicieux et puis très riche vocabulaire, surtout, que j'admire.
Et parmi les gens que vous êtes amené à écouter sans les connaître vraiment?
Ça, vous savez. Sur Orléans, quelqu'un qui a un vocabulaire très précieux.
Les gens que vous écoutez.
Par exemple, il y a notre maire qui certainement qui manie la syntaxe avec beaucoup d'art. Il y a le recteur Antoine, ça serait dommage si le contraire, mais le professeur de grammaire quand même, c'est...
Est-ce qu'il y a en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie du monde?
Ah oui, bien c'est l'Académie française. Nous avons nos immortels qui s'occupent de cela. Nos bons vieux. L'autre jour, j'ai vu à la télé justement là. La réception de Morand, mais c'était pas. C'est pas très joli, c'est pour vieux. Il faudrait bien les nommer un peu plus jeunes quand même.
Et d'après vous, est-ce que c'est très utile, utile ou sans utilité?
C'est-à-dire que quelque chose que je ne comprends pas, pendant longtemps, on vous compte comme une faute certaines expressions. Et puis, un beau jour, on vous dit, bien, c'est accepté. Par exemple, on n'avait pas le droit de dire dans le temps les haricots, et maintenant on a le droit de dire ça. Et dans le temps, le pinard, on disait, enfin, une jeune fille à la pension, si on avait dit ça, on se serait fait gronder, on aurait eu des mauvaises notes. Maintenant, c'est dans le vocabulaire, c'est dans même le dictionnaire. Alors, on ne sait pas très bien, bien sûr, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est très bien. Ça, je ne suis pas assez... bien placé pour juger là, ce que ces messieurs font.
Si on vous demandait de choisir vraiment, est-ce que vous, personnellement, ça vous paraît très utile, utile ou sans utilité?
J'estime que on est arrivé quand même à de notre langue, qu'il y a peut-être besoin quand même toujours peut-être de réformer, c'est possible. Mais enfin, je pense que leur travail doit être un peu inutile.
On dit quelquefois que la langue française se dégrade. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, on est certainement que de moins en moins, on trouve quand même des personnes qui parlent le français d'une façon impeccable. Je crois. Et justement, on est en admiration devant les personnes qui parlent rien qu'un vocabulaire très riche et de moins en moins. Peut-être que le fait d'apprendre énormément de choses, de se bourrer le crâne, mais les jeunes, le français est un petit peu quand même délaissé.
Vous croyez que ça tient à ça?
Je pense.
Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous pensez que ça n'a pas d'importance?
Écoutez, un bon roman, s'il est facile à lire, s'il est quand même, si les faces sont bien équilibrées et tout, j'estime qu'il ne faut peut-être pas quand même demander comme autant de Corneille ou de Racine, des choses extraordinaires. Nous avons encore quand même des écrivains, je crois, qui sont quand même valables.
Est-ce que vous pensez enfin que c'est sans importance que les langues françaises se dégradent ou bien
Non, ce serait dommage quand même que le français se dégrade, mais je pense quand même pas à un point où il y a alarme, ce point-là. Parce que je pense quand même au contraire qu'il y a quelques 20 ans, dans beaucoup de familles, pour écrire, c'était toute une histoire, et que maintenant, je pense que tout le monde est capable quand même d'écrire une lettre et de s'en tirer honorablement. Enfin, je le pense. Je veux bien que mon fils me dit, tous les ans, il arrive des illettrés à la caserne, enfin. Je crois quand même de moins en moins.
Est-ce que vous seriez favorable à un contrôle des journalistes, des professeurs, des speakers de la télévision et de la radio, de ce point de vue-là?
Au point de vue français?
C'est ça.
Oui, il y a quelques fois, on est un petit peu choqué par des expressions que... Mais enfin, ça fait partie peut-être du folklore français. Il faut un petit peu de t'entendre pour... Mais alors, au point de vue étranger, peut-être que c'est là que ça doit choquer. Parce que c'est... Parce peut-être que, point de vue même traduction ou autre, on doit se demander exactement si c'est vraiment valable au point de vue français.
Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on installe un contrôle sur le...
Non, j'estime que la liberté, c'est la plus belle chose. Je suis pour la liberté intégrale dans tous les domaines.
Aujourd'hui, à votre avis, l'orthographe et la correction de la langue sont-ils enseignés aussi bien, mieux ou moins bien que du temps où vous étiez vous-même à l'école? L'orthographe d'abord.
Je pense qu'on fait un gros effort pour l'orthographe et qu'on tient énormément à l'orthographe. Que l'on insiste justement sur l'orthographe. Mais il y a la méthode de lecture cette méthode globale qui doit, je crois, un peu... gêné justement pour l'orthographe, pour certains enfants, parce que c'est sonique et non, c'est pas sonique, c'est même quelque chose de visuel en fait, là, l'orthographe. Alors je ne sais pas qu'est-ce que, je sais que les instituteurs disent qu'ils ont beaucoup de mal justement avec les enfants au point de vue orthographe, et je pense que cette méthode globale n'est pas faite, alors que l'on décomposait dans le temps là, pour apprendre à lire par syllabes. Mais je crois qu'on fait en classe, on insiste énormément sur l'orthographe, là, les premières années, là. Et on lutte toute la vie chez les étudiants pour l'orthographe.
Est-ce que vous pensez qu'on enseigne mieux, moins bien, ou de la même façon quand même?
Je vous dis, là, cette méthode d'apprendre à lire doit un peu... pour l'orthographe, ça doit gêner certainement au départ les enfants. Mais sans ça, je crois qu'on s'applique beaucoup. Justement, ils ont des ordres pour que cette méthode, que l'orthographe et le français soient quand même respectés.
Mais vous ne pouvez pas faire des comparaisons, hein? Vous ne voulez
non,
pas
c'est assez
choisir...
difficile, non.
Et pour la correction de la langue?
Tout ça, c'est même, je vois, de bon temps. Nous avions des professeurs qui étaient très très à cheval sur la façon dont nous leur répondions, nous récitions nos sons et tout, et même pour les devoirs, et puis d'autres qui attachaient beaucoup moins d'importance, qui se poupaient que simplement de... Enfin, des bonnes réponses et dans leur matière, ce qui s'intéressait, puis d'autres au contraire qui étaient... Alors tout ça, je crois que ça dépend des professeurs, et justement, certains professeurs sont... que ce soit en maths ou en sciences, sont beaucoup moins à cheval pour l'orthographe qu'il faut être juste. Ils voient simplement que les résultats et ce que l'élève a acquis dans ce domaine-là.
Dans quelle matière vous étiez la plus forte à l'école?
Au point de français, non, certainement pas. Si, au point de vue, si vous voulez, dans le temps on appelait ça rédaction, ça allait tout seul, mais au point de vue français, d'ailleurs, c'est toujours un handicap pour moi, là, cette orthographe, mais au point de vue maths, j'aimais beaucoup les maths, l'histoire, géographie, enfin le reste, ça me plaisait beaucoup.
Surtout les mathématiques.
Oui, je vais beaucoup.
Habituellement, est-ce que vous avez quelque chose sur vous pour écrire?
En principe, dans mon sac, j'ai toujours. Oui, toujours. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une note à prendre, il peut y avoir quelque chose. Enfin, une amie qui me donne une adresse, toujours un petit carnet avec un crayon.
Un crayon
ou... Oh, j'ai le crayon et le porte-mine, enfin. Et les deux, parce que comme on peut toujours craindre une défaillance d'un.
Vous ne portez pas de stylo, c'est vous?
Non, jamais. Enfin, j'en ai eu, mais les enfants me les ont cassés, si bien que ça a été fini.
Et maintenant, vous n'en possédez plus?
Non, j'en ai plus.
Et est-ce que vous vous souvenez de l'occasion à laquelle vous avez offert votre premier stylo? À quelle occasion vous avez eu votre premier stylo?
Mon premier stylo? Je ne me rappelle pas, je devais avoir 12-13 ans, je devais... Attention, j'en ai brisé tellement, mon Dieu, j'étais brise-fer tellement, je mangeais tous mes porte-plumes. J'étais une souris. Je devais avoir 12-13 ans, mon père a dû m'offrir mon premier stylo.
Vous vous souvenez plus d'occasion?
Oh non, certainement peut-être pour un Noël ou... pour un anniversaire.
Depuis quand vous n'avez pas écrit depuis quand avez-vous écrit pour la dernière fois?
Depuis hier soir, j'ai écrit à mes enfants. J'en ai un fils qui est à Bagazi actuellement, alors on échange beaucoup de courriers. L'autre à Versailles. Je suis écrit de temps en temps à la Canal, mais enfin pas souvent, parce que comme il revient tous les samedis, il faut qu'il y ait quelque chose qui est signalé.
Habituellement, donc, vous m'avez dit que vous portiez un agenda. Si vous...
Pardon?
Vous m'avez dit que habituellement, vous portiez un agenda. Si vous...
Oui.
Si vous deviez dire quelque chose à une personne habitant à plusieurs kilomètres de chez vous, est-ce que vous préféreriez vous déplacer ou lui écrire une lettre?
Oh non, je ne suis...
Si cette personne est un ami.
Si elle a le téléphone, je prends le téléphone, oui. Bien sûr. Mais sinon, je ne suis pas avare d'écrire, ça ne me fait rien. Et c'est souvent que je passe comme ça, un mot à des amis ou... Enfin, comme on est très facilité maintenant avec le téléphone, alors c'est...
Et si cette personne est quelqu'un qui vous est supérieur?
Et à qui faut que j'écrive?
Oui, est-ce que vous vous déplacer ou vous écrire?
Oh non, je lui écrirai si ça m'évite quand même de... Ça m'est arrivé d'écrire à des professeurs pour les enfants et... Mais sans ça, supérieur, ben, mon Dieu, je n'ai pas tellement, à part les professeurs, vous savez, je ne vois pas beaucoup de personnes.
Vous ne préférez pas une solution plutôt que l'autre, en fait, selon les circonstances?
Non, ça m'est arrivé de me déplacer pour aller voir le directeur de, par exemple, à Saint-Geneviève, le père directeur là-bas, d'aller le voir ou de lui écrire, enfin, ça dépendait des circonstances, enfin. J'écris lorsque mes fils étaient à Londres, j'écrivais aussi au père directeur. Enfin, je vous dis, j'ai eu affaire à des supérieurs en tant que professeur ou supérieur de, enfin, directeur de collège de mes enfants, mais sans ça, pas souvent. J'ai eu affaire, c'est mon mari qui s'occupe s'il y a eu quelque chose. Je le fais, enfin.
Est-ce qu'il est important, d'après vous, d'avoir une belle écriture?
On dit que c'est la science des sceaux. J'ai toujours été dernière en écriture. Enfin, je suis arrivée à faire quelque chose de propre, c'est déjà quelque chose. Je pense quand même que ça dispose mieux les personnes lorsqu'on reçoit une lettre qui est bien écrite, ou même un devoir qui est bien présenté et bien écrit. Et ça, je crois qu'on peut guère le réformer son écriture, s'appliquer à être propre. Je sens ça.
Et si on vous demande de choisir, enfin, très important, important, peu important, nous sommes très importants.
Les docteurs, on ne peut pas les lire, ils ont une très vilaine écriture, c'est pas pour ça qu'ils ont pas un diagnostic sûr. Je pense que pour certaines personnes, lorsqu'ils écrivent par exemple pour demander un emploi ou autre, une lettre bien libellée, bien présentée, doit avoir certainement une grosse importance.
Et en général, pour les gens?
En général, non, on ne peut pas mettre en général parce que vous avez des écrivains qui écrivent comme des cochons, qui peuvent à peine se déchiffrer. Heureusement qu'il y a la machine à écrire pour que leur secrétaire puisse recopier.
Donc ça, le savoir, ça a peu d'importance.
Oui, enfin, ça, tout cela dépend, bien sûr. Je vous dis, là, par exemple, une personne qui va écrire pour avoir un emploi, je pense quand même une lettre bien rédigée, bien propre, l'écriture ne lira pas. C'est la présentation. Mais je crois que maintenant, de plus en plus chez les étudiants, l'écriture est tellement déformée, on leur demande de faire tellement que... Ça a été un petit peu, c'est une chose, c'est plus l'écriture appliquée dans les écoles, les classes communales, enfin, entre 10 et 12 ans, où l'enfant s'applique, a le temps de faire les plats et les déliers.
Et d'après vous, est-ce qu'il est important d'avoir de l'orthographe?
Oui, certainement.
Très important,
oui, très, très important, très important. Oui.
Pourquoi?
Eh bien... Que ce soit dans n'importe quel domaine, parce que ce soit une lettre ou que ce soit un devoir, parce qu'il n'y a pas d'orthographe, c'est vraiment une catastrophe. Et ça doit nuire terriblement, même à un enfant qui est très doué, s'il n'a pas d'orthographe, ça doit jouer quand même.
Est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe?
Pourquoi compliquer? Maintenant je l'ai appris comme ça, ce serait vraiment très pénible d'être obligé de recommencer autre chose. Depuis des siècles nous apprenons le français tel que, pourquoi compliquer, chercher à transformer? Faciliterait certains mots, puis d'autres peut-être on les répond au contraire. Non, je trouve que c'est très bien comme ça.
Soyez défavorable ou très défavorable?
Je serais défavorable.
Qui écrit habituellement de vous ou de votre mari à vos amis comme ça?
Moi. Jamais mon mari écrit. Que lorsque on est séparés, ça ne nous arrive pas souvent. Ça jamais il écrit. C'est toujours moi qui suis chargée de l'écrire.
Et dans la famille de votre mari?
La famille de mon mari, ma belle-mère est décédée il y a 2 mois et il n'y a plus personne du côté de mon mari. Il n'y a plus que son frère et... Lorsqu'on s'en va en vacances, c'est moi qui écris, qui lui écris.
Et... Ben, ce n'est pas votre mari qui dit.
Non, 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 c'est toujours moi.
C'est toujours vous. De votre côté, c'est la même chose, je suppose.
Ah, oui, oui, oui.
Et pourquoi, d'après vous?
Eh bien, mon mari dit que pendant les vacances, il se repose et qu'il a une femme, c'est pour faire son courrier. Et puis ça ne me déplaît pas.
Et qui remplit les papiers administratifs?
Bon.
Par exemple, les feuilles d'impôt.
Bon, ça, c'est le comptable. Donc, ça, c'est même pas mon mari.
Les feuilles de sécurité sociale de maladie?
Oh, de maladie? Oh, c'est moi.
Et les autres papiers administratifs, enfin, genre...
Vous savez, il n'y en a pas souvent. Il n'y a pas grand-chose, non. S'il y a quelque chose, ça arrive au magasin et c'est rempli. Au magasin, mais sans ça, à part les feuilles de sécurité sociale,
Ou alors les, pour le, mon fils, pour ses examens, ou ben c'est soit que je suis rempli ou c'est lui qui l'est coupé.
Qui de vous ou de votre mari possède la meilleure orthographe?
Peut-être moi. Malgré que ça ne soit pas assez dans le royaume des aveugles. Hein.
La plus belle écriture?
Mettons moi aussi. Sans me sans
oui,
mentir.
Oui, parce que je... Qui parle dans le meilleur français?
Non, mon mari n'a pas continué ses études et est rentré très jeune. Il a appris le métier de confiseur d'abord, parce que ma belle-mère tenait la confiserie là, dans la rue Royale. Alors c'était pour continuer là. Confiseur, alors il a été quoi jusqu'à 14 ans en classe, et puis après. Le métier, parce que j'ai quand même été jusqu'au brevet à ce moment-là, qui était déjà quand même un petit débouché, si l'on peut dire, une petite étape dans la vie. Donc mes parents voulaient que je continue pour le bachot, mais je ne me disais absolument rien. Puis à 18 ans, j'étais mariée. Alors.
Et qui écrit dans le meilleur français? Ce sera plutôt vous aussi, alors.
Oui, certainement. Je dis, mon mari n'écrit jamais.
Combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois?
Tout ça, c'est relatif. J'en ai écrit parce que lorsque j'avais mes deux fils en même temps en Algérie. Alors, tous les deux jours, je leur écrivais. Alors, vous voyez, ça faisait une belle correspondance. Après, lorsque ma fille était en Suisse, lorsque mon fils était en Angleterre pendant 2 ans, j'écrivais aussi au moins 2 fois par semaine. Et là, j'écris 1 ou 2 fois par semaine à mes belles-filles. Nous avons une correspondance assez suivie avec mes belles-filles.
1 ou 2 fois par
semaine? Oh oui, mes belles-filles.
Et en tout, enfin en moyenne, si
vous voulez. Vous savez, à part mes belles-filles, c'est une lettre de temps en temps à la famille, mais mettons une lettre par mois à des amis. Mais le téléphone, c'est si pratique maintenant, de plus en plus. Hein,
la dernière lettre que vous avez écrite, par exemple, c'était quand?
C'était hier soir. J'ai écrit à Benghazi. J'attends une lettre de Versailles. Lorsque je l'aurai reçue, j'écrirai.
Est-ce que vous conservez les lettres qu'on vous envoie?
Oh non.
Jamais?
Quelquefois, ça m'est arrivé d'avoir une lettre, là, vraiment, pour une circonstance où, mon Dieu, quelqu'un, même de mes enfants, qui me demandait quelque chose ou qui avait un petit... quelque chose de spécial. Alors là, je l'ai conservé, puis après, mon Dieu, j'ai déchiré, mais je ne garde pas. Je gardais que les lettres de mon mari pendant la guerre.
Vous les avez gardées?
Je les ai gardées. C'est un peu idiot. Mais...
Et combien vous en possédez
de lettres? Eh bien, écoutez, la guerre a duré, je ne sais pas, de septembre à juin, quoi. Et tous les jours, mon mari m'écrivait, sauf pendant les permissions. Et puis après, il a été porté disparu, mais Dieu merci, il n'était que prisonnier. J'ai pu le faire évader. Je savais où il était. J'ai pu descendre de l'homme, je suis revenu ici. Nous n'avons plus rien du tout, puisque nous étions complètement sinistrés. J'ai bien un magasin et tout, et ma belle-mère et mes parents et logement qui était indépendant. Et il était de l'autre côté de la charité près de nos pères. Alors j'étais là-bas, mon père m'a donné des vêtements civils dans un sac, puisque j'avais plus rien pour lui, j'ai pu arriver à me faire évader. À peu près dans les têtes de 200, 250 lettres.
Quand vous écrivez à vos amis, est-ce que vous faites un brouillon?
Oh non, jamais.
Est-ce que vous faites attention aux orthographes?
J'essaye de... Oui, c'est justement, lorsqu'il y a un mot qui m'échappe, eh bien, je vais voir dans le dictionnaire. Enfin, j'essaye de ne pas faire de, trop de fautes, mais je ne dis pas que je n'en fais pas.
Est-ce que vous relisez?
Oui, je me relis.
Parmi ces instruments, lequel utilisez-vous? Stylo encre, stylo bille, stylo feutre, porte-plume?
Non, en général, j'ai des stylos billes.